Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Près d'un tiers des pays affectés par le paludisme se préparent à entrer dans la phase d'élimination de cette maladie au cours de la prochaine décennie. C'est la révélation contenue dans un récent rapport du partenariat Holbach Malaria qui prévoit une quasi-disparition des décès dus au paludisme pendant les 10 prochaines années. Bonjour à toutes et à tous, au micro Jean-Pierre Amissi Ramazani. Toute la lumière dans ce magazine sur cette avancée spectaculaire contre le paludisme avec notre invitée, professeure Awamari Kolsek, la directrice exécutive du partenariat Holbach Malaria.
Je crois que c'est extrêmement important de dire qu'il y a eu des progrès dans tous les pays qui ont le paludisme dans le monde. Et ces progrès sont liés au fait qu'il y a d'abord des stratégies et des interventions qui sont connues. Il y a aussi un leadership, particulièrement des pays africains. Il y a un partenariat, Holbach Malaria, qui regroupe tous les partenaires dans la lutte contre le paludisme et donc qui coordonne leurs actions. Et enfin, il y a beaucoup plus de moyens dans la lutte contre le paludisme. Les fonds ont été multipliés par 15 dans les, on peut dire, 7 dernières années. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui nous permet de dire qu'on sait comment faire et donc qu'on est capable, puisque certains pays l'ont montré. Et il faut donc avoir des ambitions et aller pour 2015 à pourquoi pas qu'il n'y ait plus de cas de décès liés au paludisme, puisqu'il y a un traitement qui existe et qui est bien codifié.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il y ait cette multiplication par 15 du financement de la lutte contre le paludisme ?
Un plaidoyer extrêmement fort à tous les niveaux, au niveau de tous les décideurs, et aussi fait par non seulement les personnes des Nations Unies, mais aussi les ONG, le secteur privé. Tout le monde s'y est mis et aujourd'hui, le paludisme est sur l'agenda international du développement. Et c'est pour ça qu'avec les résultats que nous avons, les bailleurs de fonds aussi sont confiants et mettent de l'argent au niveau du paludisme, car c'est vraiment un bon investissement, puisque nous avons vu aujourd'hui une diminution de 38% du poids de la maladie.
J'allais enchaîner sur ça pour vous dire que justement votre rapport indique que le paludisme recule de 50% dans 43 pays, dont 11 pays africains. Alors j'allais demander, qu'est-ce que vous avez fait dans la lutte, notamment en matière de prévention et de traitement, pour arriver à un résultat comme celui-là?
Les pays, et je dis bien les pays, ont utilisé tous les moyens qui existaient, les moustiquaires imprégnés, à large échelle. On a parlé de couverture universelle. Donc certains pays ont pu donner à toutes les populations à risque des moustiquaires pour que ces personnes puissent être protégées. Il y a aussi la pulvérisation dans les domiciles d'insecticides, utilisée surtout en Afrique australe et en Afrique de l'Est, mais certains pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest aussi sont en train de s'y mettre. Il y a la prévention chez la femme enceinte avec des moustiquaires, mais aussi des médicaments lors des visites médicales. Et enfin, vous avez vraiment le traitement, qui est aujourd'hui aussi un traitement bien connu, qui est efficace et qui demande simplement d'être accessible aux populations.
On a parlé de ces résultats, n'est-ce pas, qui sont des résultats très encourageants. Mais quel est le niveau actuel de financement aujourd'hui dans la lutte contre le paludisme? Quels sont vos partenaires dans cette lutte? Vous avez des chiffres notamment? Combien a été dépensé pour arriver à une telle situation?
Nous avons pu mobiliser de 2003 à 2010 des sommes extraordinaires. En 2003, nous avions 100 millions de dollars au plan international pour lutter contre le paludisme. En 2010, nous avons 1,5 milliard à la disposition des pays. Et c'est de l'argent qui va directement aux pays pour acheter des produits, tant des traitements que de la prévention. Donc voilà, c'est cet argent maintenant vient d'où? D'abord du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Ce Fonds mondial donne entre 60 et 70% du financement international aux pays. Vous avez aussi l'initiative américaine présidentielle de lutte contre le paludisme, qui est aussi un grand bailleur de fonds pour les pays, la Banque mondiale et d'autres partenaires, notamment bilatéraux. Et là, je voudrais quand même citer la Grande-Bretagne, qui a quand même mis le palu sur son agenda de développement et a financé et est aussi en train de financer énormément dans la lutte contre le paludisme.
Mais quelle est la part des pays bénéficiaires?
Alors, ça, je parlais du financement international. Mais vous savez qu'en 2000, les chefs d'État s'étaient engagés à mettre jusqu'à 15% de leur budget à la santé, sachant que le paludisme est la plus grande cause d'hospitalisation, de consultation. Donc si on a 15%, le paludisme va en bénéficier. Ça a été très lent, mais beaucoup de pays sont en train d'aller autour même de 12%. Ils n'ont pas encore tous atteint 15%. Mais je voudrais quand même donner la palme qui est celle qu'on doit donner au Rwanda, qui aujourd'hui a 17% de son budget qui est alloué à la santé.
Quels sont les autres pays africains qui luttent efficacement contre le paludisme?
Avant, je donnais un nom. J'ai parlé de l'Érythrée. Et puis aujourd'hui, j'ai même peur d'oublier certains pays. Donc vous avez le Rwanda, encore une fois, la Tanzanie, l'Éthiopie, la Zambie, la Namibie. Les grands pays commencent à s'y mettre. La République démocratique du Congo, qui avait beaucoup de difficultés, est aujourd'hui en train de rattraper les gens et a eu à distribuer beaucoup de moustiquaires, faire des pulvérisations autour des mines, etc. Et même le Nigeria a, entre 2010 et 2011, distribué 60 millions de moustiquaires imprégnés. Donc c'est dire que tous les pays, même les grands qui nous inquiétaient, sont aujourd'hui au cœur de la lutte.
Le palu tue. Protégez-vous et vos enfants en utilisant les moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée.
Professeur, vous criez victoire, je crois, un peu trop vite, parce que dans votre rapport, il est aussi signalé que les moustiques résistent actuellement aux insecticides qui sont utilisés pour les tuer et qu'il y a apparition actuellement de la résistance contre les médicaments. Alors, comment pouvez-vous nous dire aujourd'hui qu'on s'achemine vers la quasi-disparition du paludisme alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants qui surgissent sur votre chemin?
Tout à fait. Je crois que identifier les défis à relever, c'est déjà un premier pas. Ce n'est pas une surprise pour nous. À chaque fois que vous utilisez un produit longtemps, des résistances peuvent apparaître. Et donc, il y a, sous le leadership de l'Organisation mondiale de la santé, des stratégies qui ont été mises sur pied pour contenir ces résistances. Et donc, les résistances dont on parle, nous en avons nous-mêmes parlé, parce que au niveau de la frontière cambodgienne et thaïlandaise, c'est apparu. Mais c'est pas partout dans le monde. Les insecticides, la même chose. Donc, au lieu de se dire il va y avoir peut-être les résistances partout, nous essayons de contenir et d'utiliser les bonnes pratiques, c'est-à-dire les traitements adéquats. Parce que le fait de maltraiter un malade, ça entraîne plus facilement des résistances. Donc, les malades doivent obtenir les bons médicaments au bon moment, avec des bons diagnostics avant de traiter. Donc, il y a toute une stratégie qui est mise en œuvre, mais également des engagements des ministres de la Santé de bannir, par exemple, les monothérapies pour le traitement, qui sont à l'origine souvent de résistance. Et pour les insecticides, nous avons également des soucis, mais cela est en train d'être, disons, pris en compte. Donc voilà, pour moi, identifier les problèmes, c'est au contraire une manière d'aller de l'avant. Et si les moyens nous sont donnés, si les donneurs, les pays continuent à investir sur le paludisme, nous trouverons tous les moyens possibles pour pouvoir endiguer ces problèmes et endiguer ce fléau. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a un problème qu'on doit se dire que ça se fera pas. Au contraire, il faut trouver des voies et moyens de pouvoir les surmonter.
Selon le partenariat Rollback Malaria, le paludisme fait encore 781 000 victimes par an, alors que l'on sait parfaitement prévenir et soigner cette maladie. Le paludisme affecte 40% de la population mondiale et entrave le développement économique et social des communautés les plus pauvres. Le développement rapide d'un certain nombre d'interventions de lutte contre le paludisme ces 10 dernières années a permis de sauver environ 1,1 million de vies rien qu'en Afrique et de réduire de 38% le nombre de décès dus au paludisme. Je ne sais pas si sur le terrain, vous ne vous trouvez pas devant des situations difficiles à régler dans la lutte contre le paludisme, parce que les populations dans les milieux ruraux, notamment en Afrique, doivent faire des choix très difficiles entre des choix existentiels. Je pense ici à avoir de l'eau, à avoir un peu à manger, etc., que de pouvoir conserver des moustiquaires qui leur sont distribués plutôt que de les vendre. Comment vous parvenez à convaincre ces gens-là pour continuer de lutter contre le paludisme?
En fait, vous savez, au niveau de la lutte contre le paludisme, je disais qu'il y avait toutes sortes de partenaires, dont les partenaires communautaires. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas une manière de travailler chez nous, de dire nous sommes au niveau global ou au niveau national et on donne des instructions. Non, ce sont les communautés elles-mêmes qui, informées, bien éduquées, arrivent à faire passer les messages dans la communauté. Et donc, c'est augmenter les compétences des communautés et des ONG. Et c'est pour ça que dans certaines régions, vous avez jusqu'à 80-90% d'utilisation des moustiquaires imprégnés. Donc, on ne distribue pas seulement. Il y a toute une éducation, et notamment d'utilisation de radio, de sketch, un peu partout en Afrique, pour que les gens comprennent l'intérêt des moustiquaires et les utilisent d'une manière appropriée.
Quels sont les principaux objectifs que vous avez et que vous comptez atteindre dans les années à venir?
Nous avons cet objectif de tout faire pour qu'il n'y ait plus de décès liés au paludisme. Presque plus, c'est ça que l'on a marqué sur nos objectifs. C'est le premier, parce qu'on trouve inadmissible que les gens continuent à mourir à cause du paludisme, alors qu'il y a des traitements qui sont adéquats et qui existent. Nous avons également comme deuxième objectif de diminuer de 75% le poids de la maladie. Et vous voyez que déjà 44 pays ont diminué de plus de 50%. Donc, connaissant les manières de faire, nous voulons accélérer et pouvoir avoir le maximum de pays allant dans ce sens pour 2015. Et enfin, nous voudrions éliminer le paludisme dans au moins 10 pays supplémentaires. Et cela est important puisque plus il y aura de pays qui élimineront le paludisme, plus le paludisme sera circonscrit et donc peut-être nos nouvelles générations pourront être dans un monde sans paludisme. Mais ce n'est pas une affaire pour demain, c'est par étapes et sur le long terme.
Professeur Awa Kolsek, revenons un peu sur RBM, Rollback Malaria. En fait, c'est quoi exactement ce partenariat? Parlez-nous un peu de sa genèse, de son fonctionnement.
C'est une question à laquelle je réponds avec plaisir, puisque c'est un partenariat qui est aujourd'hui connu, mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce que c'est réellement. Il a été créé en 1998 par l'OMS, la Banque mondiale, le PNUD et l'UNICEF. Et puis, progressivement, les acteurs dans la lutte contre le paludisme ont dit qu'il ne s'agissait pas d'une maladie qui pourrait être réglée que par ces quatre institutions et qu'il fallait que ce soit élargi et que ça devienne un grand mouvement de lutte contre le paludisme. Et c'est ainsi que les pays aussi ont dit qu'ils ne voulaient pas être que récipiendaires, mais qu'ils voulaient faire partie de ce mouvement. Donc, on a les pays endémiques, les pays donateurs, on a le secteur privé, les ONG, les chercheurs, les fondations comme la fondation Bill et Melinda Gates qui appuient énormément la recherche dans la lutte contre le paludisme. Et ce partenariat a un secrétariat qui est hébergé par l'Organisation mondiale de la santé à Genève et qui a aussi des antennes au niveau de New York, mais aussi au niveau de l'Afrique, à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique centrale à Yaoundé, hébergé par la Croix-Rouge. Au niveau de l'Afrique de l'Est, c'est un petit secrétariat aussi hébergé par l'UNICEF régional, l'Afrique australe, donc la SADC, et l'endroit où est hébergée l'équipe de Rollback Malaria. Rien que les endroits où ces unités sont hébergées vous montrent la disparité, et la multiplicité des partenaires. C'est vraiment pour montrer un organisme, disons, politique. L'UNICEF, un organisme des Nations Unies, la Croix-Rouge, une ONG. Donc ça vous prouve la vitalité de ce partenariat qui aujourd'hui a plus de 500 institutions et pays qui contribuent à la marche de ce partenariat et qui se sentent RBM. Donc quand on dit Rollback Malaria, c'est beaucoup de personnes. Ce n'est pas du tout qu'un secrétariat ou le directeur exécutif.
C'est la fin d'escale sur la lutte pour l'élimination du paludisme dans le monde avec le soutien du partenariat Rollback Malaria dirigé par notre invité, professeur Awamari Kolsek. Escale est un magazine de la radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani avec l'assistance technique de Florence Westergaard et de Rosie Starr. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.